Ce modèle Novi aux éditions du Rocher, c'est hyper important aussi pour les parents qui nous écoutent. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de Jour J, Céline Bonnet, Quentin Azoula, Bastien Robin et Nico aux manettes. Dans un instant, Eric Jean-Jean vous attend avec la musique de Bonus Track et moi je vous donne rendez-vous demain 20h pour un nouveau numéro de Jour J. Merci pour votre fidélité. À demain.
RTL.
Il est 21h sur RTL. Et c'est Victor Pourchet pour les informations. Bonsoir Victor.
Bonsoir Flavie, bonsoir à tous. Deux jours après la mort de Mathis, 15 ans, tué au couteau par un ado du même âge à Châteauroux, les premiers mots de son père en exclusivité sur RTL, un père rencontré aujourd'hui alors qu'il récupérait des bouquets de fleurs, autant d'hommages à son fils déposés devant son restaurant, et un père qui attend les résultats de l'enquête et qui appelle au calme.
Ça fait plaisir parce que ça nous montre que beaucoup de gens nous soutiennent. Et mes matous, quoi. Et mes Mathis. Personne ne sait ce qui s'est passé. Et j'entends de tout et de rien. Donc, croyez pas tout ce qui se dit partout. Attendez la fin de l'enquête. Ça va être long, mais on saura. Ça avance bien, déjà. Hein. Mais mélangeons pas tout. Et faites attention à tous les bords de droite ou d'ailleurs qui s'approprient ce genre de choses. On va faire les choses en mémoire de notre fils, qui était un vrai gentil. Donc on va rester dans la gentillesse et puis pas partir dans la haine ni la violence de quoi que ce soit. Faites attention à ce que vous lisez, c'est tout. Pour Matou, qui était un vrai gentil, soyez pareil.
Et témoignage recueilli par Christian Panvert pour RTL, l'enquête justement ouverte pour homicide volontaire. C'est le suspect de 15 ans présenté à un juge d'instruction aujourd'hui. La mère de ce mis en cause également, elle est soupçonnée d'avoir giflé Mathis alors qu'il venait de recevoir plusieurs coups de couteau par son fils. Dans l'actualité également, cette procédure rapide à l'encontre de Gérard Depardieu. Près de 10 heures de garde à vue de l'acteur aujourd'hui et déjà une date de jugement pour agression sexuelle. Ce sera en octobre prochain devant le tribunal correctionnel de Paris. Cela fait suite aux plaintes de deux femmes. Elles dénoncent des faits qui dateraient d'un tournage en 2021. Gérard Depardieu conteste ces accusations. Et puis un mot de sport avec cette vive inquiétude pour le gardien de l'équipe de France de football, Mike Maignan, blessé aux adducteurs. Son club, l'AC Milan, ne précise pas pour combien de temps. Le premier match des Bleus à l'Euro de football, c'est dans un mois et demi. Le temps et votre météo pour demain avec un ciel chargé et de la pluie sur la majeure partie du pays, une ligne en fait qui traverse la France en son milieu, du Pas-de-Calais à l'Hérault, en passant par le centre et l'Auvergne-Rhône-Alpes, ailleurs du soleil, même si la perturbation se déplacera vers le sud-est au fil des heures. Côté température, les maximales comprises entre 13 et 18 degrés sur la Bretagne, entre 18 et 22 en général et jusqu'à 26 en plaine d'Alsace. Et puis les courses, le quintet est à Fontainebleau demain, les pronostics de Dominique Cordier. Il vous conseille de jouer le 4, le 15, le 12, le 5, le 13, le 3 et le 10. L'outsider de RTL, c'est le numéro 5. Super Alex, 21h03 sur RTL. Tout de suite, vous retrouvez Eric Jean-Jean pour Bonus Track.
Merci cher Victor, à tout à l'heure, 22h, d'autres infos sur RTL. Dans quelques secondes, ce sera Bonus Track, mais pour l'instant, direction la matinale avec Mademoiselle Jade et Monsieur Gérard.
Prenons des nouvelles de cette flamme olympique merveilleuse, consultant vite notre répondeur.
C'est Lambert Wilson à l'appareil, sono Lamberto al telefono. Les JO sont une flamme, the Olympic Games are a flame. Les Olympiens sono una fiamma.
Qu'est-ce qui s'occupe si ça a le prix de flamme trimballé par des mouquets en costard sans manche?
C'est pourquoi moi, Lambert, en tant qu'acteur international, je vais déclarer ma flamme à la flamme au JO à Paris. Pour les Jeux, c'est parti. On se baigne dans la Seine entre deux rats pourris à Paris. Et on a la courante pendant toute la semaine à Paris. À Paris.
Allô, c'est JB. Jean-Baptiste Guégan. Au téléphone du répondeur. J'appelle au sujet de la flamme oplanique. La flamme des JO. J'ai vu dans ma télé que la flamme, elle a pris le bateau à Athènes le 26 avril et qu'elle va arriver à Marseille le 8 mai. Je voudrais bien savoir pourquoi qu'elle ne prend pas l'avion au lieu du bateau, parce qu'elle serait à Marseille en 2h30. À moins que peut-être, si elle prend l'avion, elle ne pourra pas fumer. Et est-ce que le type qui porte la flamme Il va continuer à courir sur le bateau avec la flamme. Mmh. Oh, j'y comprends rien du tout. Bonjour, c'est François Bayrou à l'appareil. Le 20 mai prochain, retenez bien, en mon honneur, la flamme olympique passera dans ma ville de Pau. J'ai donc décidé que... Monsieur un compatriote, Jean Lassalle, tête de liste de l'Alliance Ouvrale, la flamme, la flamme olympique, la flamme connerie, la flamme ne passera pas, dans la vallée bout du camp, la flamme à la con, avec la Fédération Nationale des Chasseurs, pan, dans le cul la flamme, je vais voir, elle ne va pas courir jusqu'à Paris la flamme.
Merci à tous les deux, à demain, allez musique.
Bonus track.
Bonus track. Éric Jean-Jean.
Jusqu'à 22h sur RTL.
Bonsoir, c'est Bonus Track jusqu'à 22h. Alors, tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, on parlera du fameux Moscou Peace Festival. C'était il y a 35 ans. Et Frédéric Granier viendra tout nous dire sur ce festival qui va changer la donne, hein, en Europe. Un focus sur Garbage avant qu'il ne vienne faire un petit tour par chez nous. Et puis surtout notre festival préféré, le plus beau festival de France, le plus grand festival de France, les Vieilles Charrues, dont on a appris qu'ils étaient dans la tourmente cette semaine. Alors, j'ai eu envie de passer un petit coup de fil à celui qui en est le patron et qui est notre ami, c'est Jérôme Tréorel. Bonsoir cher Jérôme.
Bonsoir Eric.
Qu'est-ce qui se passe avec les Vieilles Charrues?
Il se passe qu'on est effectivement dans la tourmente et que la menace qui pèse sur nous, c'est l'arrêt pur et simple du festival. On a appris les dernières semaines successivement trois mauvaises nouvelles, trois décisions qui ont été prises par la collectivité, hein, que ce soit la mairie ou la Power Communauté. Qui, en gros, nous annonce la perte de terrain pour certains dès cette année, et puis notamment les campings, la moitié des campings qui sont mythiques aux Vieilles Charrues dès 2026. Ouais. On avait en projet également d'acquérir un bureau pour installer nos équipes sur le site du festival, et avec un parking adjacent qui est stratégique parce que c'est l'entrée principale des festivals et des Vieilles Charrues. Il y a 40 000 personnes qui transitent par ces entrées-là. Et puis, dernière mauvaise nouvelle, à moins de 3 mois du festival, alors qu'on a signé une convention de mise à disposition gratuite des terrains pour 5 ans avec les collectivités, qu'il y avait une nouvelle taxe qui arrivait à Carré, une taxe de près de 400 000 euros qu'on nous demande pour pouvoir utiliser le site du festival. Donc voilà, des méthodes un peu surprenantes qui interrogent. Mais surtout, faire prendre conscience, c'était un peu le cri d'alerte qu'on a voulu lancer, faire prendre conscience de la gravité de la situation, et on en appelle donc aux élus du Centre-Bretagne pour sauver le festival, parce que sans ces terrains et avec ces décisions, on ne pourra plus continuer.
Bon, ça veut dire que on est vraiment dans le festival Les Vieilles Charrues qui est en danger, j'allais dire, de mort.
Oui, en danger de mort, c'est pas un coup de com qu'on a pu entendre, c'est pas ou comme on a entendu également un coup politique ou de je ne sais quoi, c'est qu'on réagit à l'accumulation de décisions qui font que les dernières années on a pu s'adapter quand on perdait des bouts de terrain, des parcelles, etc., qu'aujourd'hui on est au pied du mur et que on n'a plus de solution de repli malgré toute la bonne volonté. Et que voilà, on informe tous les amoureux des charrues de cette situation, et surtout on en appelle aux élus Centre-Bretagne pour réagir et sauver le festival, parce que le festival, au-delà d'être un rassemblement musical, hein, c'est une vraie expérience de vie pour tous les festivaliers, mais pas que, toute une ville qui se met en mode vieille charrue avec les habitants qui louent leur jardin, leur maison pour les festivaliers, c'est tous les commerces, une grande majorité de commerces ou d'entreprises avec qui on travaille, c'est énormément aussi de bénévoles qui viennent, 7500 bénévoles, c'est une centaine d'associations à qui on reverse des dons pour les remercier de leur participation, et sans ces dons, ils ne peuvent pas mettre en place leur propre projet. Donc voilà, c'est tout un écosystème en Centre-Bretagne qui est en plus une zone, on va dire, défavorisée en matière de dynamisme, et les charrues avec tous ceux qui le font permettait d'avoir une visibilité incroyable sur le territoire. Donc,
surtout, c'est dingue, Jérôme. C'est-à-dire que c'est en gros une mairie qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Comment on peut faire pour vous aider et parce que je sais que ça va se jouer juridiquement, évidemment, ça va peut-être même aller jusqu'au tribunal, ça va se jouer politiquement, mais nous, fans des vieilles charrues, amoureux des vieilles charrues, comment on peut aider, Jérôme?
Eh ben, effectivement, depuis qu'on a lancé le cri d'alerte la semaine passée, on a eu énormément de messages de soutien, de support qui font vraiment super plaisir et beaucoup de gens demandaient comment on peut aider. Et on a été contacté là ce week-end par un comité de soutien qui vient de se créer et qui a lancé une pétition en ligne sur change.org. Un comité de soutien qui est à l'initiative d'associations bénévoles dont je parlais à l'instant, de partenaires mécènes du festival qui sont énormément impliqués sur le festival et qui eux aussi, du fait de l'activité du festival, j'ai créé de l'emploi, génère voilà du chiffre d'affaires, etc. Et puis plus largement, dans ce comité, il y a aussi des amis et des inconditionnels du festival qui proposent justement de se mobiliser. Donc, si vous aimez les vieilles charrues, si vous ne voulez pas que le festival s'arrête, c'est le moment de le faire savoir en signant cette pétition en ligne pour voilà nous aider. En parallèle de ça, nous, on ira voir les élus bretons, centre breton, avec justement cette pétition. On espère
qu'il y aura qu'il faut des gens. Milliers de signatures. Comment on fait pour aller jusqu'à cette pétition? Explique-nous tout, Jérôme.
C'est change.org. Ouais, change.org, et puis vous aurez sur les réseaux des vieilles charrues, on va relayer cette initiative des amis des vieilles charrues.
Je vais le faire moi aussi hein, sur mes réseaux.
Et puis voilà, c'est tout le monde, voilà, on va essayer de mobiliser nos amis, nos partenaires, nos voisins, et tous les amoureux des charrues, et puis on va essayer aussi de contacter bien évidemment les artistes, les productions. On a déjà eu plein de messages de festivals amis qui voilà veulent aussi nous soutenir, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc on va partager ce lien au maximum pour que voilà on se retrouve tous ensemble autour de cette pétition en ligne pour eh bien marquer l'importance aussi pour tous. Chacun, on a nos histoires aux vieilles charrues et que voilà il faut que ces histoires continuent pour faire vivre ce centre Bretagne et pour aussi avoir accès à la culture. Les vieilles charrues, c'est un festival 100% associatif qui propose, on essaye chaque année une programmation éclectique qui fait rêver avec des grandes têtes d'affiches internationales, des artistes en devenir, et on essaie de le faire aussi au tarif le plus bas possible pour que la culture ne devienne pas un produit de luxe.
Bon, alors change.org, change.org, ou bien sur les réseaux des charrues, on vous lâche pas, voilà. Et puis surtout on se fait un point régulier, Jérôme, promis.
Promis, super, merci beaucoup.
Les charrues sont en partenariat avec RTL, puis surtout nos amis, et c'est surtout notre festival préféré, donc évidemment qu'on va pas laisser tomber les vieilles charrues. Je t'embrasse très très fort, mon Jérôme, et courage, et embrasse tout le monde là-bas, et dis-leur que nous, RTL, on est avec vous, et que surtout, on va venir vous voir, et pendant de longues années. Change.org, faut signer cette pétition. Merci infiniment, c'était Jérôme Tréorel, le patron des vieilles charrues sur RTL. À bientôt, Jérôme, et à très très vite.
À bientôt, merci. Ciao. Merci.
Blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our mind will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch our lifetime's argument that nothing come from violence and nothing ever could. For all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall, like tears from the star, like tears from the star. On and on fragile we are, how fragile we are.
Ice cold is the heart of protection, act as a shield to avoid the rejection. Sometimes we hate that we're able to feel, acting all super, we're not made of steel. Weep through your anger, you'll find tears of joy. Give thanks all the blessings that you have enjoyed. Beautiful flower in this concrete garden, fragile at heart, but we're still so hot. Hey!
On and on the rain will fall, like tears from the star, like tears from the star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are, how
how fragile we are, how fragile we are, how fragile we are, how fragile we are, how fragile we are.
C'était Fragile Sting, enregistré alors cette fois-ci dans le grand studio RTL quand il était venu avec Shaggy. C'était Sting évidemment sur RTL, et Sting fait partie des têtes d'affiche de ces vieilles charrues. Et si on a choisi cette chanson Fragile, c'est parce que justement les vieilles charrues, aussi solides soient-elles, semblent avoir quelques fragilités, et on a vraiment besoin de vous et de nous. Il faut signer cette pétition, c'est sur change.org. Voilà, il faut aider les vieilles charrues, et nous on sera évidemment aux côtés de Jérôme et de toute la bande des vieilles charrues, et puis des Bretons. Cet endroit est incroyable. Les Bretons sont incroyables, ce festival est incroyable. Bref, on vous aime très fort et on vous lâchera pas. Allez, à suivre, un focus sur Garbage sur RTL.
Bonne soirée sur RTL.
RTL, vivre ensemble.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide, pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
Tout savoir sur les taches brunes avec les laboratoires Vichy. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Vous êtes pharmacienne conseil pour les laboratoires Vichy. Alors à quoi sont dues les taches qui apparaissent sur le visage?
Eh bien c'est dû à la mélanogénèse, un processus naturel qui s'accélère avec l'âge et le soleil.
Et on peut corriger ces taches?
Oui, et même les prévenir avec le protocole Lift Active B3 des laboratoires Vichy.
Comment?
D'abord on applique le sérum Lift Active B3, ensuite la crème B3 jours SPF 50 pour protéger la peau des UV.
D'accord. Quels sont les effets?
Eh bien après 2 mois d'utilisation, les taches diminuent de 65% en moyenne.
Super.
Et en plus, les laboratoires Vichy innovent avec la crème nuit Lift Active B3 anti-tache qui est enrichie en niacinamide et rétinol pur.
Mm-hmm.
Résultat, au réveil, l'hyperpigmentation est corrigée et la peau est visiblement plus éclatante.
Parfait. Et où trouve-t-on Lift Active B3 anti-tache?
En pharmacie, parapharmacie et sur vichy.fr.
Merci Fanny.
Étude clinique, mesure de la surface des taches brunes, 35 femmes, 2 mois.
Bonne soirée sur RTL.
RTL, vivre ensemble.
Bonus track.
Jusqu'à 22h, Éric Jean-Jean sur RTL.
Ils font leur grand retour sur scène après 5 ans sans tournée européenne. Ils seront à Paris pour une date unique en France, le 6 juillet prochain, au Grand Rex. Ça nous a donné envie de vous parler d'un groupe emblématique des années 90. Garbage, c'est le focus du jour. Un groupe qu'on découvre en 1995 avec un premier album.
I would die for you, I would die for you. I've been dying just to feel you by my side.
Pour Garbage, tout commence à Madison, dans le Wisconsin, dans un studio d'enregistrement, celui de Steve Marker et de Butch Vig, le Smart Studios. En fait, c'est ce studio qui fait la fierté de ces deux musiciens. Ces deux potes de fac, ils l'ont créé au début des années 80 pour produire des groupes locaux, et depuis, bah, c'est devenu des producteurs les plus en vue du moment. Smashing Pumpkins, Sonic Youth et même Nirvana. Le groupe de Seattle avait bien aimé le travail de Butch Vig sur Killdozer et lui avait demandé de produire un album qui va devenir culte. Cet album s'appelle Nevermind, rien que ça. Alors on est maintenant en 93, 2 ans après Nevermind, et les deux producteurs et leurs copains musiciens, Duke Ericson, s'éclatent à trouver des nouveaux sons. Ils commencent à composer des chansons et songent de plus en plus à former ensemble un groupe de pop. Très vite, ils se disent qu'il leur faut une chanteuse. Une fille avec une vraie voix, puis surtout une vraie personnalité. Une fille qui pourrait incarner le groupe, genre, je sais pas, une Debbie Harry ou une Chrissy Hynde. Et c'est en regardant la télévision qu'ils découvrent un groupe écossais, Angel Fish. Et tous trois tombent d'accord. C'est cette fille qu'il leur faut. Cette fille, la voici. Elle s'appelle Charlie Manson.
Just to be adored and what you need.
Alors, la première rencontre est un peu compliquée, ils ont un peu de mal à se comprendre, hein, parce que faut dire que Shirley a un accent écossais à couper au couteau, puis surtout elle est hyper intimidée de rencontrer Butch Vig, hein, qui est le producteur de Nevermind. Puis quelques mois plus tard, la deuxième session se passe au Smart Studio, et là elle commence à improviser des paroles sur des ébauches de chansons. Le courant passe bien et on est en train de vivre le début de ce qui va devenir l'aventure Garbage. Notamment à cette chanson Stupid Girl, ce premier album est un succès mondial, plus de 4 millions de copies seront vendues, 2 nominations aux Grammy Awards et des énormes tubes. Cette chanson par exemple, elle est basée sur un sample de batterie de Trail in Vain des Clash. C'est pour ça que Joe Strummer et Mick Jones sont crédités. D'ailleurs, en parlant de tubes, en voici un autre, Only Happy When It Rains. I'm only happy when it rains. Ça aussi, ça va être un tube mondial, hein. Car si les chansons sont composées ensemble, c'est vraiment Charlie Manson qui est devenu l'image charismatique de ce groupe qui va écrire les paroles. Dans ce titre, Only Happy When It Rains, bon bah, je suis uniquement heureuse quand il pleut, elle se moque évidemment des groupes de rock du milieu des années 90 et on pense tous aux Guns N' Roses et au fameux November Rain, la pluie de novembre. Et si vous écoutez bien le son de cette chanson, on est vraiment dans le son garbage. Une pop qui puise dans le rock, le grunge, puissant, dense, avec des couches de sons qui se superposent. Écoutez. Butch Vig, c'est le producteur de génie. Il joue de la batterie. Quant à Steve Marker et Duke Ericson, ils sont aux guitares. Et puis à Charlie. En 1988, c'est la sortie du deuxième album de Garbage, version 2.0, tiré de l'album, le titre « I Think I'm Paranoid ». Des mois de préparation pour cet album très très attendu. L'idée de base, c'est de proposer quelque chose de nouveau tout en restant dans la continuité du premier album. Puis aussi l'envie d'intégrer des sons électro qui en 98 sont devenus complètement indispensables dans la pop mondiale. Il y a eu Portishead, Björk ou Radiohead qui sont passés par là, donc il faut faire quelque chose. Et écoutez, ils le font vachement bien. Ce deuxième album, qui devait au départ s'appeler Sad Alcoholic Clowns, va devenir version 2.0 en référence au nombre d'heures passées devant les ordi du studio à peaufiner chaque piste. Bah, il faut dire que certaines chansons contiennent pas moins de 100 boucles et samples différents. C'est d'ailleurs l'un des premiers albums à avoir été entièrement réalisé grâce à un logiciel de création musicale. Encore, l'album va connaître un succès mondial, numéro 1 en Angleterre, comme en France, près de 2 millions d'exemplaires vendus aux États-Unis. Le groupe enchaîne avec une gigantesque tournée qui va durer plus de 18 mois. Et c'est donc naturellement que David Arnold, choisi avec Don Black pour composer la musique du prochain James Bond, pense à Garbage pour interpréter ce morceau-là. The World Is Not Enough, c'est la BO du James Bond qui porte le même nom. Le monde ne suffit pas. L'une des raisons pour laquelle j'ai pensé à Garbage, c'est parce que Shirley peut facilement habiter le monde de Bond. La preuve. C'est pas moi qui parlais, hein, c'est le réalisateur du film. D'ailleurs, ce même réalisateur qui disait que Shirley est la seule personne à laquelle il pensait dans le monde de la musique contemporaine et qui soit l'équivalente d'Electra. Electra, c'est la méchante dans le film, jouée par Sophie Marceau d'ailleurs à l'époque.
And I know when to touch, no one
octobre 2001, Garbage sort son troisième album, Beautiful Garbage, avec comme morceau d'ouverture cette chanson-là. Shut Your Mouth.
Ferme ta gueule.
Un album qui commence à naître en tournée. Le groupe avait envie de retranscrire ce son live. Un album plus direct, plus simple, plus spontané, plus organique, moins produit. Des chansons qui vont naître en quelques heures, quand à l'époque il fallait des mois pour le précédent album. Sauf que, en fait, cet album il aura moins de succès que les deux premiers. Peut-être parce que justement il était plus brut et qu'on s'attendait pas à ça de Garbage. Du coup en 2005, le groupe revient avec un quatrième album, Bleed Like Me, premier single extrait de ce quatrième album, Why Do You Love Me? Et c'est le retour dans les tops avec ce titre-là. Titre qui va même devenir le plus réussi de Garbage en 6 ans. Il faut dire qu'ils reviennent de loin. Les deux dernières années ont été un peu compliquées pour le groupe. D'abord, en 2003, ils avaient commencé à travailler sur l'album et Shirley a un souci. Une intervention chirurgicale à cause d'un kyste sur les cordes vocales et l'enregistrement est interrompu quelques mois. Alors retour en studio, cette fois-ci c'est histoire vraie, une tractopelle qui percute le mur des studios Smart et qui va occasionner de gros dégâts matériels. Le studio va être inutilisable et les sessions une nouvelle fois reportées. Mais au-delà de ces imprévus, en fait c'est l'ambiance qui est électrique entre les membres du groupe. Ils sont même à deux doigts de se séparer. Alors Butch Vig lui décide de partir quelque temps à Los Angeles et Shirley, elle retourne en Écosse. Et pendant cette pause, Butch, dans une fête, croise son vieux pote Dave Grohl, ancien batteur de Nirvana, devenu leader des Foo Fighters, et lui propose un petit peu comme ça en l'air de jouer de la batterie sur un morceau de Garbage. Et Dave Grohl accepte. Et c'est en quelque sorte Dave Grohl qui, en jouant sur ce morceau, Bad Boyfriend, va relancer Garbage. C'est lui là, à la batterie. Écoutez. Et en fait, c'est cette collaboration qui va relancer ce quatrième album. Bleed Like Me. Mais juste après la sortie de l'album, le groupe publie un communiqué annonçant une pause d'une durée indéterminée, officiellement pour se reposer après une tournée exténuante et retrouver leurs proches. Une pause qui va durer 7 ans. Et en 2012, on les retrouve avec ça. Blood for Puppies. C'est tiré d'un cinquième album, Not Your Kind of People. Nous voulions que ce soit le premier single parce qu'il résume tellement de choses sur Garbage. Il y a des guitares floues et la voix de Shirley est tellement géniale. C'est Vic qui dit ça. Nous avons senti que si c'était la première chose que les gens entendraient de nous en 7 ans, c'était le morceau parfait. Il va suivre une grosse tournée qui passera alors d'ailleurs par l'Olympia à Paris. Et puis, il y a un an et demi, fin 2022, Garbage a sorti une anthologie, un double album présenté par Shirley Manson comme, je cite, « le témoignage de presque 3 décennies de travail créatif, collectif et de ténacité ». Yeah. Peu importe les changements et les marées inévitables dans l'industrie de la musique, nous sommes surpris d'être encore ici à faire des disques et à parcourir le monde. C'est Charlie Manson qui dit ça. Et pour accompagner cette anthologie incroyable, cette chanson-là, Witness to Love, c'est le single. Et nous voilà en 2024, Garbage annonce une tournée européenne, la première en 5 ans, qui passera par la France, mon grand Rex adoré. Et puis ça se passera le 6 juillet prochain, et puis aussi par l'Écosse natale, évidemment, de Charlie Manson, évidemment. Autre actualité du groupe, la réédition de leur album Bleed Like Me, pour célébrer son 20e anniversaire, qui sortira d'ailleurs pour la première fois en vinyle. Allez, on va conclure ce focus avec une chanson qu'on va écouter en entier. C'est tiré de leur premier album et c'est au fond l'un de leurs plus gros succès. Écoutez ce son. Ça, c'est vraiment le son du début pour Garbage. Un son un peu flou, mais cette chanson qui s'appelle Queer, qui est une drôle d'histoire, je vous la raconte après. C'est l'histoire d'un garçon, en fait, queer, hein, dont le papa veut le rééduquer et lui envoie une prostituée pour faire de lui un homme. Évidemment, quand je dis faire de lui un homme, c'est entre guillemets.
Hey boy, take a look at me. Let me dirty up your mind. I'll strip away your heart veneer and see what I can find.
Yeah.
c'est Garbage sur RTL. Alors à suivre tout à l'heure Pascal et Perrine évidemment qui vont nous parler de l'actualité du jour et puis Frédéric Garnier qui nous racontera le Moscou Music Peace Festival qui a eu lieu il y a 35 ans pile et il y a un très bel article dans JO, on y revient.
Bonus track.
Jusqu'à 22h, Éric Jean-Jean sur RTL.
L'actualité musicale avec le casting de rêve, le patron de la programmation et la productrice de cette émission. Bonsoir Perrine Suquet, bonsoir Pascal Amiot.
Bonsoir.
Perrine, l'actualité musicale, on commence avec les Stones qui sont de retour sur scène.
Oui, hier c'était le coup d'envoi de leur tournée Hackney Diamond au Energy Stadium de Houston. Première date de cette tournée américaine qui passera par 16 villes aux États-Unis et au Canada. Un concert qui s'est ouvert avec Start Me Up.
C'est souvent qui commence avec ce morceau-là et ce gros riff de guitare, Start Me Up.
Vous entendez, ils sont en pleine forme hein, malgré leur âge. Hein. Mick et Keith ont quand même fêté leurs 80 ans cette année. Et Ronnie Wood, le plus jeune de la bande, 76 ans.
Ça fait 236 ans à 3 quand ils sont sur scène. Bon, on n'a pas de date pour Paris, hein, a priori, ou pour la France.
Non, pas encore, mais on espère. Hein,
ouais, ça serait bien.
On aimerait bien qu'ils passent par la France.
À ce sujet, je me suis fait raconter par Jean-Louis Aubin il n'y a pas très longtemps une histoire géniale et hyper drôle qui prouve à la fois leur humour et aussi un petit peu leur cynisme. Quand ils sont passés en 98 au Stade de France, d'ailleurs, c'est eux qui ont ouvert le Stade de France en première partie. Jean-Louis Aubert en solo et juste avant de monter sur scène ils se sont réunis et ils chantaient One for the money, two for the money, three for the money, four for the money, five for the money. Jean-Louis était un peu effaré en se demandant si c'était du lard ou du cochon. Bon bref, retour à l'actualité avec Perrine et le rap maintenant avec une grande nouvelle pour les fans d'Eminem.
Oui, parce qu'il vient d'annoncer son grand retour avec la sortie cet été de son 12e album studio The Death of Slim Shady, la mort de Slim Shady, son célèbre alter ego psychopathe. Alors il a profité en fait de la soirée du draft NFL de football américain dans sa ville natale de Détroit pour annoncer ce nouvel album dans une petite vidéo sous la forme d'une fausse émission criminelle intitulée Detroit Murder où on apprend la mort de Slim Shady. Écoutez.
So who killed Slim Shady?
With such a wide field of potential suspects, finding his killer makes for a difficult task.
Well, whoever did it, I'd like to shake their hand one day.
The murder of Slim Shady has become one of the most infamous cold cases in American history.
Le meurtre de Slim Shady, c'est l'un des plus importants cold cases hein, de l'industrie américaine qui l'a tué. Puis il y a le mec qui dit, moi j'aurais bien aimé serrer la main à celui qui l'a tué.
Avec 50 Cent en guest star quand même
oui,
hein, sur
forcément,
cette vidéo.
En parlant de voyous.
Alors pour l'instant, on n'en sait pas plus sur l'album, mais on vous tiendra évidemment au courant.
Ah bien. Merci Perrine, évidemment l'actualité musicale. Pascal, l'actualité musicale aussi, mais avec une nouveauté à découvrir avec le patron de la programmation musicale. RTL.
C'est vendredi dernier que Justice, le duo français donc, qui a repris le flambeau de la French Touch après que Daft Punk
super
s'est tombé.
Super interview de Steven Bellery d'ailleurs ce soir dans la playlist voilà, de ce soir avec Julien Cellier.
Voilà, Justice était attendu. Le quatrième album s'appelle Hyper Drama, donc disponible depuis vendredi. Bon, il travaille à peu près sur les mêmes éléments que Daft Punk, c'est-à-dire qu'il y a le funk, l'électro, et puis cet univers très très cinématographique et vraiment très présent dans Hyper Drama. Je vous avais fait découvrir un premier extrait en duo avec Tame Impala. Mm-hmm. Ben, c'était pas le seul, puisqu'il y a un deuxième duo avec Tame Impala, une collaboration. Il y a d'autres collaborations d'ailleurs dans l'album. Mais en tout cas, voici Neverender qui ouvre cet album. Donc en duo avec Tame Impala, l'artiste australien.
I'm not afraid to die.
efficace le nouveau Justice.
Oui, tout à fait, il est un peu plus pop que le premier extrait qui était aussi en duo avec Tame Impala. C'était donc Never Ender, extrait de Hyperdrama, nouvel album de Justice, voilà, qui a un succès mondial, hein. C'est vraiment un groupe qui marche partout dans le monde. Voilà, on lui souhaite tout le meilleur pour ce au duo Justice, pour ce nouvel album.
Merci, produit par un garçon formidable qui est Pedro Winter, hein, qui est le patron du label Headbanger et qu'on connaît nous très très bien ici parce qu'on connaît la famille. Merci infiniment, cher Pascal Amiot, merci Perrine. À demain tous les deux. On va se plonger alors dans un festival de musique qui a eu lieu, le premier festival de rock à Moscou, qui a eu lieu il y a 35 ans pile. Et pour cela, c'est Frédéric Granier qui nous rejoint dans quelques secondes sur RTL.
Bonus track. Éric Jeanjean jusqu'à 22h sur RTL.
Un petit bout d'histoire maintenant, d'histoire de la musique avec Frédéric Granier. Bonsoir cher Frédéric.
Bonsoir.
Alors Frédéric est journaliste, évidemment, on te doit un livre qui a été une source d'inspiration importante pour nous, Imagine, 12 chansons qui ont fait l'histoire aux éditions Perrin. Mais aujourd'hui, si on te reçoit, c'est pour Géo. Géo Histoire qui sort alors un magazine absolument incroyable avec en grand sujet le nazisme et les femmes. Mais en l'occurrence, plus petit, un sujet qui nous a intéressé dans Géo Histoire, un papier sur un événement qui s'est passé il y a 35 ans à Moscou, le Moscou Peace Festival, qui s'est passé les 12 et 13 août 89, 20 ans après Woodstock. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Frédéric ?
C'est un concert qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui s'avère capital pour l'histoire tout court, et l'histoire du rock en particulier, parce que lors de ces deux jours de musique à Moscou, 120 000 personnes se sont rassemblées au stade Lénine. On est en pleine perestroïka, la reconstruction voulue par Gorbatchev, et pour la première fois, eh bien, il va y avoir un festival de rock, plutôt de hard rock, mais qui va rassembler toutes les vedettes du moment. Alors, des vedettes soviétiques, hein, russes, en l'occurrence Gorky Park, mais aussi des vedettes venues des États-Unis et d'Angleterre, ce qui était absolument inédit.
Motley Crue, Ozzy Osbourne et Scorpions, justement, c'est important qu'ils soient là, Scorpions.
Bah, Scorpions, évidemment, parce que ils viennent d'Allemagne de l'Ouest, hein, c'est un groupe de Hanovre. Donc, pour eux, la séparation de l'Europe en deux, ils connaissent ça très bien, hein, ils ont grandi à 100 km de Helmstedt, qui était la frontière interallemande. Et pour eux, venir chanter, à Moscou, c'est pas du tout anodin, hein, parce que contrairement aux autres groupes qui vont passer tout leur séjour dans leur chambre à boire de la vodka qui coûte l'équivalent de 2 $, donc c'est plutôt intéressant pour eux. Eux, ils vont aller rencontrer les fans, ils vont se promener à Moscou, ils vont sur la Place Rouge et ils vont s'imprégner de cette ambiance et comprendre qu'on est là à un moment historique puisque on est à la fin. En pressant que c'est la fin de la guerre froide.
Le mur n'est pas encore tombé, hein.
Le mur n'est pas encore tombé. On est 3 mois avant le mur. Mais quelque chose est dans l'air, quelque chose est en train de se produire. Et c'est ça que va ressentir en particulier Klaus Meine, le lutin à la voix d'or, le chanteur des Scorpions, lors de ces deux jours de concert.
Alors, il faut expliquer, hein, c'est pas la première fois que des Occidentaux se produisent en URSS. Mais Scorpions avait déjà remporté un triomphe avec 10 dates à Leningrad en 1988. Mais en revanche, c'est la première fois que se déroule un vrai festival de rock. Et ces deux initiateurs de ce projet, c'est ce que j'ai appris dans ton article dans Géo Histoire, qui vont réussir à amadouer le gouvernement russe. Alors les deux initiatures, il y a un russe d'abord, et puis il y a un américain. Alors ça c'est passionnant, on va y revenir sur l'américain, mais d'abord on commence par Stas Namin, qui est le manager du groupe russe Gorky Park. Comment il s'y prend lui ?
Lui, c'est une figure de la contre-culture depuis très longtemps, depuis les années 60, c'était le leader d'un groupe qui s'appelait The Flowers, et Stas Namin, il a un bagou extraordinaire, c'est un type qui connaît toutes les arcanes du pouvoir, et qui sait comment jongler un petit peu avec la censure, en tout cas il a des liens avec le politburo. Et puis il se dit, là ça va être l'occasion de taper très fort avec cette association, avec un producteur américain très connu à l'époque.
Alors qui s'appelle Doc McGee, alors lui c'est l'un des managers les plus influents de l'époque, et lui il a un truc mais génial que j'avais pas compris, c'est que derrière lui en fait il a l'administration Reagan, parce que derrière il y a la musique, mais il y a aussi la lutte contre la drogue, qui est un des grands piliers de l'administration Reagan.
C'est exactement. C'est le fondateur, Doc McGee, d'une association qui s'appelle Make a Difference, et qui vise à lutter contre le trafic de drogue, en particulier aux États-Unis. Bon, le type, je t'avoue, n'est pas tout à fait Mère Teresa. C'est quelqu'un qu'on a trouvé le nez dans la chenouf au début des années 80, et on lui a dit, soit tu fais ta fondation, soit tu as quelques soucis. Et donc, il a fait cette fondation, soutenue officiellement par Nancy Reagan. Ouais. Qui, et puis voilà, et Doc McGee était le manager à l'époque de Bon Jovi, le manager de Motley Crue, et des Scorpions. Et donc, avec Stas Namin, ils vont se dire, eh ben, on a tous les deux des artistes extraordinaires, et pourquoi on fait pas ce coup de poker?
Dans cet article, dans ton article, Frédéric, c'est génial, parce qu'il y a une vraie dramaturgie, parce qu'à tout moment, on se dit, il y a le KGB qui va arriver.
C'était la peur permanente. C'est-à-dire qu'ils se disaient, tous les jours, ils vont se rendre compte qu'on est en train d'organiser un sommet de contre-culture. On va faire un festival de rock qui est vraiment l'incarnation du satanisme occidental le plus pur. Ouais. Et donc, ils vont trouver toutes les parades pour faire en sorte que cet événement ait lieu. En particulier, en faisant en sorte que dans le titre du festival, Moscow Music Peace Festival, il n'y ait pas le mot rock, ni pop. Uh-huh. Donc déjà, ça va arranger les choses. Et puis surtout, ils vont faire ça sans autorisation, en partant du principe, ils vont partir d'une déclaration de Gorbatchev qui disait « est autorisé tout ce qui n'est pas interdit par la loi », formule assez vasouillarde, mais ils vont prendre au mot, et donc ils vont y aller. Et ce qui est incroyable, c'est que ça va marcher, sans doute aussi parce que le KGB avait quelques difficultés justement à interdire une manifestation qui était quand même pour une cause noble, c'est-à-dire la lutte contre la drogue, et donc ça va se faire. Incroyable.
Non, alors après, les Américains débarquent. Et alors, quand les Américains débarquent, j'ai l'impression qu'ils partent un peu sur la Lune, tu vois, ils arrivent avec des camions, etc. Quoi. Ils ont leur propre matos, c'est comme ça que ça se passe. Hein.
C'est effectivement une sorte de voyage intersidéral qui se produit, parce que on est face à des gens qui savent pas trop comment ça se passe à Moscou, ils sont persuadés qu'on peut rien trouver. Ils ont pas tout à fait tort, hein. Je pense qu'il y a quelques denrées qui manquent fin des années 80 à Moscou, mais ils préfèrent ça comme une expédition, effectivement, comme s'ils partaient à l'autre bout du monde ou sur la Lune.
64, je te lis, hein, 64 fourgons remplis d'équipements, mais de vaisselle, de nourriture, de cigarettes, de couvertures.
On sait jamais ce qui peut se passer à Moscou. Et de couvertures. Mais ils auront quelques heureuses surprises, en particulier, là, comme je l'ai dit, la vodka, vraiment pas chère. Et puis surtout, ils partent là-bas en se disant que c'est un peu une date comme une autre. Je pense que personne, là, du côté de Skid Row, de Cinderella, de Motley Crue, de Ozzy Osbourne, c'est pas des artistes qui sont connus, disons, pour leur engagement politique ou pour leur finesse d'appréciation géostratégique. Et donc, ils partent comme s'ils pouvaient partir à Paris. Et pour eux, c'est tout aussi exotique. Mais vraiment les seuls, voilà, qui ont conscience qu'un morceau d'histoire en train de se constituer, c'est Scorpions.
D'ailleurs, il l'a raconté, Klaus Main, hein, il dit, quand je me suis baladé, que les musiciens, on a pris le bateau, etc. Et il a senti ce wind of change, ce fameux vent de changement.
Oui, et c'était surtout ce vent du changement, il s'est produit quand Scorpions est monté sur la scène. Ils ont fait leur grand tube, hein, Big City Lights, Rhythm of Love, tout ça. Et puis, dans cette enceinte incroyable, qui était quand même très surveillée, il y avait à la fois les soldats de l'armée rouge, hein, qui étaient en charge de la sécurité, et puis, dans le public, il y avait quelques civils, c'était des agents du KGB.
Ah oui.
Et puis à un moment, Klaus Main, il a sorti sa plus belle carte, sa plus belle cartouche. C'est évidemment Still Loving You, le sommet des power ballades, hein, qui a été un énorme succès, en particulier en France en 84. On dit que ça a créé un mini baby boom quelques mois plus tard.
C'est lui qui le dit.
Et au moment où il chante Still Loving You, ouais, il y a quelque chose qui se passe. Tout d'un coup, dans le public, il y a une sorte d'osmose, les gens ont les larmes aux yeux, et surtout, les soldats de l'armée rouge tombent la chemise et jettent leur casquette en l'air.
To win back your love again, I will.
Still Loving You, ça c'est la version justement du Moscow Peace Festival dont on parle ici sur RTL avec Frédéric Granier pour ton article dans Géo Histoire. Alors ça va donner lieu à plusieurs choses d'abord. Toi tu dis dans ton article dans Géo que sans doute c'est un basculement de l'histoire hein, à ce moment-là, ce moment précis. Il va se passer quelque chose après, on sait qu'il va se passer quelque chose après.
On sait, c'est quelque chose que Klaus Meiner a pressenti parce que quand il participe à ses concerts le soir, après il s'en va avec des musiciens, des journalistes, et il descend sur un bateau long de la Moscova, et il sent, en discutant avec ses soviétiques, que le système est en train de s'effondrer. Et c'est pour ça qu'il a cette idée du vent du changement, et ça lui donnera l'idée de ses premières paroles de Wind of Change. Je descends à la Moscova le long de Gorky Park en écoutant le vent du changement. Voilà, ça sera un tube à contre-temps finalement, puisque ça sortira plus tard, bien après la chute du mur. Ça sortira le 20 janvier 91, presque un an et demi après la chute du mur. Mais ça sera l'incarnation de ce nouveau monde, de la fin de cette bipolarité du monde et la chute du bloc soviétique. Succès extraordinaire avec 14 millions d'exemplaires. Un succès qui a failli pas se faire d'ailleurs, parce que quand les Scorpions sort son album Crazy World, la maison de disques Mercury dit oh ouais, mais on va plutôt sortir des singles un peu punchy, hein, donc il y a Tease Me Please Me et puis Don't Believe Her, et c'est les Français, c'est la division française de Mercury qui disent ouais, mais nous on a eu un beau tube en 84 avec Still Loving You, on aimerait bien la power ballade là. Donc résultat, ils vont sortir un peu à la hâte cette chanson, sortir un clip pas bien fichu en mettant une captation de concert,
ouais.
Et ça va être un tube monstrueux.
Colossal, ouais. On l'entend d'ailleurs derrière nous, on laisse un petit peu tourner juste pour le plaisir. Hein. Ouais, si vous avez roulé des pelles sur ce titre-là, sachez qu'il a une importance politique capitale. Change, un morceau de Scorpion qui sort, tu le disais hein, fort justement, Frédéric, en 91, inspiré par la fin de la guerre froide et la chute du mur. Et là, la version que vous écoutez, c'est celle de 2011, qui avait été choisie par Gorbatchev pour fêter ses 80 ans. Merci infiniment, cher Frédéric. Je rappelle que cet article sur le Moscou Music Peace Festival est dans le Géo Histoire, qui est toujours dans dans les kiosques, avec en une le nazisme et les femmes. Et tu me disais, la musique était importante aussi. Je fais une toute petite digression pour les nazis.
Ça a toujours été important pour toutes les cultures, mais les nazis étaient un peu obsédés par la musique interdite, la musique dégénérée. Donc c'était surtout celle qui devait être mise au banc.